Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Chrétienté, dirigé en première partie par Guillaume de Thiolois, en seconde partie par Daniel Amiche, assisté d'Adélaïde, diffusé en direct le jeudi 26 juin de 18h à 21h. Il est diffusé en différé le vendredi 27 juin dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs, bonsoir, content de vous retrouver pour cette seconde partie du Libre Journal de Chrétienté, qui était dirigé dans sa première partie par Guillaume de Thiolois. Heureux de vous... Alors nous sommes sur Radio Courtoisie, n'est-ce pas, la radio du...
Je viens de le dire, la radio du pays réel et de la francophonie.
Merci, voilà, donc c'est bien ça, je vais pouvoir vous quitter parce qu'elle connaît tout par cœur les réponses à l'avance. Donc on ne peut plus poser de questions, c'est effrayant. Voilà, donc vous avez entendu Adélaïde, qui est notre assistante à tous les deux, et j'en suis extrêmement heureux. Je vais vous présenter d'abord la liste des invités de ce soir. C'est une soirée que nous allons devoir quand même traiter avec un peu de sérieux, parce que quand même il y a des événements qui sont assez graves qui se passent, mais bon, il est possible quand même que je sois un petit peu facétieux de temps en temps, vous m'en excuserez, parce que c'est ma nature et qu'on se refait pas, donc comme ça, c'est comme ça, on n'en discute pas. Alors, premier invité, je dis dans l'ordre de ceux qui vont parler au micro, premier invité, Benjamin Blanchard. Bonsoir Benjamin Blanchard.
Bonsoir Daniel Amiche.
Alors Benjamin, figurez-vous, est patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et il anime maintenant le mardi soir, non c'est quand c'est
quelque chose. Oui, le mardi, toutes les 4 semaines.
Un libre journal de la...
Des débats.
Des débats. Le premier était excellent.
Oh merci Daniel Amiche.
Et tout, ça va s'améliorer, vous allez voir. Au bout de 23 ans de radio comme moi, vous allez voir, vous allez être absolument impeccable. Alors il a déjà fait beaucoup de radio, Benjamin.
Mais là, c'est... 3 heures d'affilée, je n'avais encore jamais fait.
Ah bah, vous allez voir. Éprouvant. Ah ouais, mais c'est une espèce de marathon comme ça. On pourrait faire des choses comme ça, le marathon. C'est 24 sur 24 avec de l'eau et tout. Pourvu qu'on soit hydraté et nourri, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Benjamin est aussi donc l'administrateur de SOS Chrétien d'Orient. Une jeune association qui s'est signalée l'an passé par cette magnifique opération qui était Noël en Syrie. Magnifique. Et là, ils reviennent, ils étaient pour Pâques en Irak, pour faire Pâques en Irak. Alors vous allez nous faire un petit compte-rendu de Pâques en Irak, et puis ensuite vous allez parler d'un grand projet, d'une grande mission, on va dire, que vous avez eue, qui est une idée magnifique, que je soutiens, que j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie soutiendront aussi. Également présent dans le studio, le grand avocat Jérôme Triomphe, du barreau de Paris. Du barreau de Paris, je vous en prie.
Alors, bonsoir, cher Daniel.
Rallez-vous. Bonsoir, chers auditeurs. Alors que tout le monde connaît, qui va nous faire sa chronique. Mais après, Benjamin, ce soir, il a des petites réunions, donc vous êtes obligé de le laisser. C'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Voilà, j'ai la messe ensuite.
Ah oui, ça se fait. Ah, bah, si c'est pour une chose plus comme ça, c'est très gentil. Genre, qu'entre la messe et Daniel Ami, il ne faut pas hésiter. Hein, prenez la messe, il n'y a pas de souci. Voilà, et Jérôme Triomphe a beaucoup de choses à nous dire, puisqu'il y a une actualité aujourd'hui sur les questions de défense de la vie, de défense des libertés publiques qui sont. Une actualité très importante dont il va nous parler. Également, notre ami Jean-Pierre Maugendre. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Maugendre, président de Renaissance catholique. Vous l'avez entendu ce matin chez Anne Brassier. Donc ce que je lui proposais, c'était peut-être d'installer un lit de camp au secrétariat, comme ça vous pourriez coucher là tout le temps, puis comme ça on vous aurait dans toutes les émissions, ce serait parfait. Alors Jean-Pierre Maugendre vient nous parler de la 23e université d'été de Renaissance catholique sur le thème « Sortir de la crise ». Donc effectivement, beaucoup de moyens de sortir de la crise. Il y a les piqûres pour tuer, il y a aussi priver les gens d'alimentation et d'eau, ça, comme ça on meurt aussi, comme ça il n'y a plus de crise, comme ça on est tranquille.
Mais l'objectif, ce n'est pas sortir les pieds devant.
Non, on va essayer quand même d'en sortir la tête haute, surtout de la crise. Voilà, on va essayer. Hein. Je ne suis pas très sûr, on va essayer quand même. Bon. Et puis alors, donc, ce sera pour la fin. Alors, je reçois deux excellents camarades. Alors, je présente tout de suite mes deux invités, parce qu'ils viennent de loin, on va vous expliquer tout ça. Ce sont des... Alors bon, je vous dis tout de suite, hein, bon, accrochez-vous, vous allez voir, c'est intéressant quand même. Bon, ce sont des rappeurs.
Ouais, ça existe.
Des rappeurs, mais des rappeurs chrétiens. Voilà, des garçons tout à fait étonnants. Alors, il y en a un des deux qui appartient au groupe Leader Vocal, enfin, qui est compositeur, chanteur, interprète, c'est François François Furtat. Bonsoir François.
Ouais, bonsoir à tous.
Ah, François, vous êtes pasteur aussi, vous, c'est voilà, ça exactement. Il est pasteur et votre frère, votre frère est missionnaire, hein, c'est
voilà,
ça
il est missionnaire. Exactement.
Bon, très bien, bah, vous le saluerez de ma part quand vous le verrez.
D'accord.
Et puis alors, il y a Harry avec vous aussi qui pourra nous dire, bien sûr, nous parler. Venez vous asseoir là plutôt, nos chers camarades. Alors, Méron Belli, qui lui, je vous ai mis un présario du groupe, hein.
Oui,
parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas. On peut pas. On peut pas, on est sur Radio Courtoisie. On peut pas. Pas de mot anglais. Sinon, il y a un petit cochon qui est là, on est obligé de mettre des sous dedans. Ouais. Alors, non, merci beaucoup. Ah, ça va, quand on n'arrête pas d'engraisser ce cochon, on peut même pas le manger à la fin de l'année. Hein. C'est sans grand intérêt. Voilà, donc, c'est ce que font ces jeunes, enfin, c'est des jeunes, c'est vraiment, vraiment remarquable. Ils ont fait des musiques, alors dans le style, évidemment, du rap, mais qui s'adresse justement aux amateurs de rap. Sauf que là, c'est pas le rap violent, c'est pas le rap agressif, haineux, nihiliste. C'est un rap tout de louange, de compassion. C'est des musiques qui sont très intéressantes. Moi, je suis pas un grand amateur de rap, je le dis tout de suite, hein, ouais, je n'ai jamais menti, je ne mens pas. Bon. Mais j'ai été vraiment séduit par votre travail, parce que vous ne faites pas que du rap.
Merci beaucoup.
Vous faites aussi beaucoup de d'apostolat à votre manière, avec des vidéos remarquables, notamment sur la persécution des chrétiens dans le monde. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai plaisir à vous recevoir ce soir, parce que vous savez que les questions de christianophobie me tiennent beaucoup
bien
à cœur.
Sûr.
Voilà. Alors, nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, donner la parole à notre ami Benjamin Blanchard. Qui va peut-être, Benjamin, accepteriez-vous, alors, je peux dire Benjamin, parce que là, comme vous êtes patron d'émission, avec les autres, je suis obligé de donner le prénom et le nom, hein, sans quoi ça ne marche pas. Mais puis vous êtes le Benjamin, peut-être le Benjamin.
Oh non, je ne crois pas. Non, pensez que je ne voudrais pas offenser Adélaïde.
Hein, voilà, bon, très bien, très bien. Peut-être un tout petit rappel à nos auditeurs de ce que fut l'opération que vous avez menée pour Pâques, qui s'appelait donc Pâques en Irak.
Voilà, donc nous sommes partis à 7 Français et un Irakien qui nous a rejoint sur place, au nord de l'Irak, donc au Kurdistan et dans certaines zones de l'Irak hors Kurdistan, donc notamment la ville de Karakoche dont on a pas mal entendu parler ces dernières semaines.
Ces dernières 24 heures, puisque la ville a été attaquée hier par les milices sunnites, notamment l'État islamique d'Irak et du Levant, et que des centaines de familles chrétiennes ont fui en panique la ville de Karakoche.
Voilà, en tout cas, il y a des obus qui sont tombés sur la ville, alors, et il y a eu des batailles entre les troupes kurdes et les insurgés rebelles, djihadistes et autres, en tout cas les insurgés sunnites dans la plaine de Ninive, donc autour de Karakoche. Après, est-ce qu'il y a directement eu une attaque de la ville?
Ça a commencé, oui, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs.
Enfin, d'accord.
Les agences disent qu'il y a beaucoup de morts.
D'accord, parce que nos contacts sur place nous disaient qu'ils avaient vu quelques
obus. Radio Vatican d'aujourd'hui aussi, signalant, confirmant qu'il y a eu quand même beaucoup de morts, à la fois chez les Peshmerga kurdes et aussi chez les militants sunnites menés par, parce qu'il n'y a pas que des gens de l'État islamique d'Irak et du Levant, mais il y a eu beaucoup de morts, et les chrétiens dans ces cas-là, évidemment, ils fuient, ils n'ont pas le choix. Donc ils sont partis à Erbil, enfin je ne sais pas où, enfin, ils ont fui.
Visiblement, malheureusement pour l'Irak, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'essaye de trouver un peu partout, que la politique catastrophique du Premier ministre Maliki a réussi à monter contre le gouvernement central toutes les tendances sunnites, et ils sont tous retrouvés contre eux derrière le IL, et donc ça les a fait tomber dans le du pire côté, on va dire, du pire côté qu'on puisse trouver, puisque le IL, c'est vraiment ce qui se fait de pire dans la région, et c'est quand même malheureux d'avoir jeté des populations entières dans les bras de ces fanatiques.
Bush, père et fils, Obama plus Maliki, ça fait quand même, ça fait beaucoup, hein, ça fait quand même beaucoup. Hein. À la limite, on peut supporter, mais 4 d'un coup, c'est trop. Quoi. Pour les chrétiens, c'est vraiment trop.
Voilà. Donc nous avons convoyé là-bas 4 tonnes, entre 3 et 4 tonnes, bon, j'ai pas le poids au gramme près de matériel récolté notamment grâce à la générosité des auditeurs de Radio Courtoisie, puisque nous avions des vêtements, des jouets pour les enfants, des couvertures, des fournitures scolaires, et que nous avons pu distribuer à des familles de réfugiés à Karakoche notamment, mais ailleurs, ou à des orphelinats tenus par des religieuses ou des religieux quand ce sont des orphelinats de garçons. Et puis également, nous avons distribué ça à des réfugiés qui habitent Mangesh, qui est un petit village de montagne dans le dans le nord du Kurdistan. Donc ça a été une très belle mission avec de beaux échanges avec tous ces réfugiés, parfois des familles très pauvres parce que qui ont perdu le père de famille étant mort dans un attentat ou à la guerre, les femmes se retrouvent seules avec beaucoup d'enfants, donc c'est très difficile pour elles. Donc ce sont toutes ces personnes et toutes ces œuvres à qui nous avons porté une petite assistance lors de ce voyage en Irak. Et puis comme c'était Pâques et qu'à chaque fois on essaye de lier nos missions à des grandes fêtes chrétiennes, comme c'était Pâques, nous avons passé 3 jours au monastère de Marmat, qui est un monastère syriaque orthodoxe au-dessus de Mossoul, justement. Donc d'ailleurs, ce monastère actuellement est absolument comble de réfugiés depuis 3 semaines. Et grâce à Dieu, il n'a pas été occupé par le IEL, peut-être parce qu'il est très près de la frontière kurde.
Donc on dirait EIIL, c'est État islamique d'Irak et du Levant. Voilà, c'est le nom.
Tout un programme.
En arabe, on dit Daesh.
Voilà, et ISIS en anglais.
Oui, c'est ça, voilà, attention. Sinon, le cochon va... Attends, faut vous sachez quand même, je ne vous prends pas en traître, Benjamin. Voilà, c'est une très très belle mission. Alors, j'invite nos auditeurs à aller, évidemment, sur votre site, soschrétiensdorient.fr, parce qu'il y a une très belle vidéo que vous avez faite, une vingtaine de minutes de vidéo, qui montre l'opération avec des images vraiment très poignantes, très touchantes. En même temps, on voit tous ces petits gosses là. On se dit bon, il y a encore de l'espoir. Quoi. C'est voilà, parce que sinon on est quand même un peu. Des fois, je me couche, je suis un peu désespéré le soir de lire. Enfin bon, c'est spécial. Enfin bon.
Voilà. Et donc il y a le site internet soschrétiensdorient.fr, chrétien avec un S. Et puis il y a également une page Facebook qui est très active. C'est plus facile à mettre à jour que le site. Donc oui. Il y a plusieurs publications par jour. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont Twitter, également un compte Twitter, toujours soschrétiensdorient.
C'est la totale, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
Ah, c'est
bien d'agir, mais il faut aussi faire savoir. Parce que si on agit sans le faire savoir,
bien sûr,
ça a beaucoup moins de portée.
Et aujourd'hui, nous avons tous les uns et les autres, nous avons ces nouveaux moyens de communication qui sont un peu comme la langue d'Ésope. Il y a un aspect positif et beaucoup d'aspects négatifs, mais enfin, il y a quand même des aspects positifs qui nous permettent quand même de nous relier, de nous connecter avec énormément de gens dans le monde, notamment pour les francophones, pour ce qui nous intéresse, nous. Et c'est vraiment formidable. Quoi. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui si on n'avait pas tous ces outils-là. Ça tombe tous.
Et alors là, actuellement, même avant les batailles autour de Karakoche d'hier et d'aujourd'hui, il y a une situation très inquiétante, en tout cas très gênante pour les habitants du Kurdistan et des zones chrétiennes frontalières qu'on appelle les zones disputées, donc Karakoche notamment. C'est qu'il y a. Alors par exemple, à Karakoche, il y a un problème d'eau parce que l'eau venait de Mossoul et comme c'est la partie adverse, ils n'approvisionnent plus en eau. Et le problème, c'est que le Kurdistan ne peut pas leur envoyer d'eau, puisque Erbil ne s'approvisionne qu'avec des puits, puisqu'il n'y a pas de rivière à Erbil. Et donc, ils ont déjà des problèmes d'approvisionnement en eau. Ils ne peuvent pas en fournir à Karakoche. Donc, ça entraîne des problèmes d'électricité pour les mêmes raisons, puisque l'électricité venait de Mossoul. Pareil, Erbil a des problèmes d'électricité parce que pourquoi ? Dans la région qui est riche en pétrole, on crée l'électricité avec des usines au gaz ou au pétrole. Et le problème, c'est qu'il y a la plus grosse difficulté, c'est qu'il n'y a plus de pétrole, puisque les 2 grandes raffineries du pays sont occupées par le IEL ou entourées, parce que celle de la deuxième, je crois qu'il s'appelle Béji, et on ne sait pas si elle a été prise ou si l'armée irakienne aurait résisté, mais en tout cas, elle est arrêtée. Elle est arrêtée depuis 2 semaines. Et il y a une pénurie d'essence. On voit des gens qui attendent pendant 3 ou 4 jours de pouvoir approvisionner leur voiture en essence.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la deuxième partie du Libre Journal de Chrétienté, dirigée par Daniel Amiche. Et nous nous entretenons avec Benjamin Blanchard, qui est l'administrateur de SOS Chrétien d'Orient, au sujet de leur prochaine opération en Syrie.
Voilà, sur la question de l'approvisionnement en eau potable, qui est quand même vitale pour tout, pour boire, pour se laver, c'est toute chose qu'il faut faire. Bon, faut savoir que le mètre cube d'eau à Karakoche est plus cher que le mètre cube d'eau à Paris. C'est devenu, qui peut se payer ça? C'est des gens pauvres. Voilà. Généralement, bon, il y en a qui ont réussi à fuir, mais enfin, ceux qui sont restés là-bas, c'est les plus pauvres. Ils n'ont pas le choix. Donc voilà. C'est absolument hallucinant. Alors, On quitte l'Irak et ce pays martyr qui a été fichu en l'air. Bon voilà, bon, bah, les responsabilités, l'histoire jugera tout ça. On n'est pas là pour... si encore on peut porter un jugement objectif sur ces choses-là, mais enfin voilà, on n'est pas là pour parler de ce jugement qu'on aurait à faire sur qui a provoqué cette catastrophe en Irak. L'autre catastrophe qui a failli être aussi dramatique, mais qui l'est peut-être un peu moins encore, que ça fait quand même 4 ans qu'il y a une guerre, je ne sais pas comment l'appeler, une guerre civile matinée d'influence étrangère en Syrie.
C'est de moins en moins une guerre civile si ça ne l'a jamais été. Je crois que c'est d'abord une guerre entre la Syrie et des puissances étrangères malheureusement. Ouais.
Alors justement, la Syrie, bah revenons-y, puisque lors de votre belle première mission Noël en Syrie, vous n'aviez pas pu aller, je pense, à cette époque-là, à Mahloul, hein, la grande ville sacrée ou sainte.
Mahloul était occupée par les petits amis de l'EIL qui sévissent actuellement en Irak, et donc on ne pouvait pas y mettre les pieds, c'était très dangereux. D'ailleurs, il n'y avait plus personne, tous les habitants avaient fui lors de la et les derniers qui étaient restés, c'était les religieuses du couvent
Sainte-Thècle.
Et qui ont été enlevées et qui finalement ont été libérées en échange de prisonniers, je crois,
de prisonniers terroristes. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Bon, voilà. Passons. Mais enfin, voilà. Donc, Mahloula, c'est une ville très importante en Syrie. Ça fait partie des villes chrétiennes depuis toute antiquité, avec des plus grands lieux
de pèlerinage. Pour les chrétiens syriens et peut-être de toute la région. En tout cas, c'est une ville historiquement, culturellement et spirituellement très importante pour les Syriens et qui a été très abîmée. Alors quand Mahloula a été reconquise, libérée par l'armée arabe syrienne, il y a eu beaucoup de visites officielles là-bas. Ouais. Donc le président Bachar al-Assad s'y est rendu. Et le lendemain, les deux patriarches, ou la veille, je ne sais plus, en tout cas, un jour d'écart, les deux patriarches grecs d'Antioche s'y sont rendus. Donc
l'orthodoxe et le catholique.
Voilà, Jean X, le patriarche grec orthodoxe, et Grégoire III, le patriarche grec catholique melkite. Bon, je n'ai pas le nom de famille de Jean X parce que je n'ose pas le prononcer.
C'est des personnages magnifiques, les rois des patriarches avec comme dans la Bible, quoi, avec les longues barbes et tout, ils ont une gueule, ces gens-là, voilà. Ils vivent dans un...
Et Grégorios III est venu, est venu à Paris à l'occasion de la seconde convention melkite européenne, donc à laquelle j'ai assisté, c'était des conférences passionnantes, et cette convention s'est conclue par une grande messe, une grande liturgie solennelle à Notre-Dame de Paris, organisée par l'Œuvre d'Orient, et donc célébrée par le patriarche Grégoire III. À cette occasion, lors de sa visite, SOS Chrétien d'Orient, dont moi, avait eu l'occasion de s'entretenir avec lui pendant une demi-heure, et on avait pu filmer l'entretien que vous pouvez retrouver sur le site soschrétiendorient.fr. Voilà, malheureusement, il n'est pas diffusable à la radio parce que la qualité audio n'est pas assez bonne, mais les auditeurs de Radio
Courtoisie peuvent aller le voir. Je mets ça sur l'Observatoire
de la Christianophobie, c'est passionnant. Le patriarche Grégoire III parle avec beaucoup de franchise, très directement. Mais par certains côtés, il rappelle un peu le pape François dans ses manières d'aller droit au but.
Oui, peut-être, d'accord. Bon. Alors,
quitter les processions pour aller embrasser les enfants, par exemple. D'accord.
Bon, alors donc, ça c'est...
Un peu plus chargé d'ornements, mais...
Deuxième, la mission pour cet été, une nouvelle mission que vous êtes confiée à plusieurs, mais une que j'aimerais que vous entreteniez les auditeurs de... Radio Courtoisie, voilà, bon, c'est... Il faut bien que je la fasse travailler, parce que faut qu'elle gagne son salaire quand même, hein, dis donc. Ouais.
Ça s'appelle Une Église pour Mahloula, et nous avons monté cette mission avec, justement, le patriarche Grégoire III, suite à l'entretien que nous avions eu avec lui, puisque ça nous trottait en tête, mais il fallait voir la faisabilité, et le patriarche a été très enthousiaste de suite, dès que nous lui en avons parlé. Donc cet été, nous allons partir, pareil, une petite équipe de 8 voire 9 personnes, ce qui est l'extrême limite haute, parce qu'après ça fait beaucoup de monde.
Cette fois-ci, vous allez pouvoir aller à Mahloul.
Ah oui, j'espère bien, sauf changement de situation de dernière minute que je ne souhaite pas aux Syriens, bien sûr. Mais en tout cas, Maaloula est en cours de reconstruction. C'est un chantier. Les gens commencent à revenir petit à petit. Et donc, nous irons à Maaloula si tout va bien. Et nous essayerons de donner un coup de main donc matériel, bien sûr, mais surtout financier, pour la reconstruction de l'église Saint-Georges, qui est en fait l'église paroissiale grecque-melkite de Maaloula. Maaloula. Donc ça, c'est une première chose. En plus, nous serons là-bas à l'occasion du... En tout cas, nous serons en Syrie, je ne donne pas les dates exactement, mais nous serons en Syrie à l'occasion du 15 août. Pour l'Assomption. Et il se trouve que l'Assomption est la fête jubilaire de l'église grecque catholique melkite. Donc, bien sûr, nous serons à la cathédrale Notre-Dame de Damas, la cathédrale patriarcale, pour l'Assomption.
Magnifique.
Et puis également, nous comptons aller en pèlerinage à Soufanié, qui est un quartier de Damas.
Et une apparition, hein ?
Pas plus qu'une, je vous en prie.
Notre-Dame de Soufanié.
Exactement, depuis 1982.
Mais j'ai eu reçu ici, moi, comment il s'appelait ?
Le père Zahraoui.
Zahraoui, je l'ai eu ici dans le studio, il y a 20 ans, 15
que
ans.
Que nous maintenant. Avons rencontré à Damas cet hiver.
Magnifique, Notre-Dame de Soufanié, magnifique. C'est une icône de la Vierge qui soigne de l'huile, c'est hallucinant.
Voilà, une icône de la Vierge qui soigne de l'huile, ensuite la Sainte Vierge qui est apparue à Myrna et à son mari et à tous les gens qui étaient présents.
Elle est orthodoxe, Myrna.
Non, elle est catholique et son mari est orthodoxe.
Et lui, c'est lui qui est orthodoxe.
Nicolas est orthodoxe.
D'accord.
Et en plus, elle a été elle-même stigmatisée.
Oui,
plusieurs
oui,
fois lors de Semaine Sainte, et en fait c'est à chaque fois que les deux Semaines Saintes, donc calendrier grégorien et calendrier julien, tombent en même temps. Myrna revit la passion du Christ.
Ouais. Donc c'est vraiment... Est-ce que ce sont des apparitions qui sont reconnues par l'église grecque melkite?
Oui,
au début, bien sûr, comme d'habitude, l'église était très prudente, mais depuis, toutes les églises locales...
Il est toujours vivant, le père Zahraoui?
Oui, on l'a rencontré à Noël, il dirigeait sa chorale donc, qui interprète des chants religieux à l'opéra de Damas pour une soirée de chants de Noël en après-midi.
Il a fait réciter notre père en araméen, je crois, si je me souviens, mais ça fait longtemps, c'était qu'une...
Et il a toujours une forme épatante.
Ah, c'est bien le père.
Et d'ailleurs, magnifique. Dans le studio de Radio Courtoisie, j'avais reçu, je ne sais plus, je crois une émission du mercredi soir, un libre journal de la nuit, Geneviève et Jean-Claude Antaclis, qui sont tous les deux médecins et qui avaient constaté fait des rapports médicaux lors des stigmatisations pendant la Semaine Sainte.
Bon, c'est pour ça, c'est très important. Enfin, pour nous, les catholiques, nous tous, c'est pas des protestants, ça c'est autre chose. Mais alors, nous, on fait très attention à ça parce que tout ça, c'est des signes. Je veux dire, il y a tellement eu aussi d'apparitions mariales en Égypte avant la catastrophe que tout ça, c'est des signes. Tout ça, c'est des signes.
Et d'ailleurs,
la Vierge vient, elle vient pas pour...
Les premières apparitions à Soufanié sont arrivées en 1982, exactement un mois avant le début de la première insurrection des frères musulmans qui avaient attaqué une école de cadets de l'armée arabe syrienne à Alep. Et cette insurrection avait été réprimée assez fermement, voire férocement, par le gouvernement du père du président actuel, Hafez el-Assad, qui avait attaqué la ville de Hama avec mal de morts. Alors, je ne sais pas le nombre exact, mais ça avait été assez féroce. Et donc, la Vierge était apparue juste avant. Et il faut vous dire que dans les années 2000, je crois que les apparitions sont beaucoup ralenties. Il n'y en a presque plus.
Pas beaucoup, oui.
Et en fait, c'est recommencé juste avant le début de la crise actuelle. En fait, deux mois avant la crise actuelle, ça a recommencé, et avec notamment des messages de paix et appelant à l'unité des Syriens, etc. Donc, c'est vraiment pas innocent à chaque fois.
Merci Benjamin Blanchard. Donc, si vous voulez suivre cette association vraiment formidable, SOS Chrétiens d'Orient en un seul mot, .fr, ils ont un blog, ils ont une page Facebook, ils ont un Twitter, machin, un gazouillis, là, ils ont tout ce qu'il faut, on peut les suivre.
Et un compte YouTube
très
également, sur lequel vous pouvez retrouver les deux films, le film du voyage en Syrie, le film du voyage en Irak, et l'entretien avec le patriarche Grégoire III, l'Ahan, des Grecs catholiques melkites, et bientôt à venir un entretien également d'une demi-heure avec Monseigneur Jean Barthes, qui est l'archevêque d'Alep, grec catholique melkite également, et qui qui lui parle très très concrètement des problèmes quotidiens dans la ville d'Alep, notamment de l'approvisionnement en eau, puisque les rebelles, les djihadistes, ont fait sauter l'usine qui permet d'approvisionner la ville en eau, donc ils sont privés d'eau, c'est très compliqué, il faut creuser des puits.
Benjamin Blanchard, merci beaucoup pour cette belle explication et surtout félicitations.
Merci Daniel Amiche.
Félicitations pour votre... moi j'ai pas à être remercié. Hein. Félicitations pour le travail que vous faites, qui est un travail vraiment formidable. Je parle pas seulement de vos prestations sur Radio Courtoisie, mais je veux dire, ce que vous faites pour les chrétiens d'Orient est vraiment digne d'éloge. Vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup d'autres associations, aide à l'église en détresse, l'œuvre d'Orient, beaucoup.
Fraternité en Irak,
solidarité, persécution.
Aussi, nos amis de chrétienté, solidarité aussi font du travail. Et même du travail aussi, puis de l'aide matérielle aussi. Il le faut, on ne sera jamais assez nombreux, parce qu'on a quand même une dette, c'est quand même nos frères aînés dans la foi quand même. On a quand même une petite dette vis-à-vis d'eux, à mon avis, donc il faut quand même leur montrer.
Et oui, en Irak, donc Fraternité en Irak, qui fait beaucoup de travail à Karakoche aussi, et la famille Notre-Dame d'Orient et d'Occident. Il y avait la semaine dernière Arnaud du Royaume dans ce studio chez Jean-Marie Lemenet, et qui lui s'occupe beaucoup des Irakiens chrétiens qui sont à Paris, qui sont réfugiés suite à des attentats.
Magnifique. Merci cher Benjamin Blanchard.
Tous pour leur travail.
Et ben voilà, saluons-les tous et remercions-les. Et je pense qu'en même temps, c'est un beau témoignage que la France, fille aînée de l'Église, apporte à ces chrétientés d'Orient pour lesquelles on a toujours, nous aurons toujours un devoir d'affection, de reconnaissance et de protection. Ne l'oublions pas. Voilà, ne l'oublions pas, parce que c'est ça la France. Merci Benjamin, à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie pour votre prochain Libre Journal, et puis dans cette émission, évidemment, vous êtes un invité permanent, vous venez autant que vous voulez, évidemment, enfin pas trop quand même, hein, parce qu'après les gens jasent, hein, donc bon, voilà.
Merci beaucoup Daniel Amiche.
Merci à vous. Donc je rappelle, SOS Chrétien d'Orient, c'est donc le www.soschrétiensdorient.fr. Sans beaucoup de transition, mais... c'est peut-être vous qui les ferez, maître Jérôme Triomphe. Vous allez devoir nous parler, vous, de deux sujets quand même qui ont une espèce d'information exclusive, peut-être, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je ne sais pas si vous y tenez. Et puis, si, intérêt, hein. Puis tant qu'on... Il y a une exclusivité quand même pour Radio Courtoisie.
Non, une exclusivité, on commence par laquelle?
L'exclusivité d'abord.
On commence par le facétieux.
Oui, on va commencer par le facétieux. Allez. Et après on va aller sur le...
Et on va aller sur l'essentiel
lourd,
après.
Comme disent les jeunes.
Le facétieux, c'est, je vous rappelle, chers auditeurs, que dans le cadre des manifs pour tous contre la loi Taubira sur le mariage des homosexuels, Christiane Taubira avait inauguré une prison à Condé-sur-Sarthe, ce qui n'est pas sans paradoxe, puisque nos amis rappeurs le savent, mais le Condé, dans le langage rap, c'est le flic. Faire une prison à Condé-sur-Sarthe, c'est quand même tout à fait paradoxal, mais c'était le cas, et c'était une inauguration de Christiane Taubira, et vous savez qu'à cette époque, à chaque fois qu'un ministre se déplaçait, il avait droit à un petit comité d'accueil. Et donc les manifestants anti-loi Taubira avaient préparé un petit comité d'accueil de quelques familles de l'Orne, ils sont pas violents, hein, faut pas exagérer. Et Madame Taubira avait prévu une garde rapprochée tout à fait exceptionnelle, puisque cette prison se trouve au milieu des champs de pissenlits. Cette prison est protégée par un grillage, lui-même planté, donc elle est plantée au milieu d'un champ de pissenlits, et un garçon facétieux qui souhaite véritablement qu'on parle de son affaire et qu'on donne son nom. Et on va donner son nom parce qu'en plus, je pense qu'il faut
l'aider.
Il s'appelle Lou Motin. Il est agriculteur dans l'Orne. Il est père de 10 enfants. Et d'ailleurs, vous pouvez taper Lou Motin dans Google et vous tomberez sur son site où vous pouvez acheter de l'excellente viande que j'ai goûté.
Pas des pissenlits.
Et je vous garantie que vous ne le regretterez pas. Et il mérite d'être soutenu parce que c'est non seulement un très bon professionnel, mais en plus un militant de la première heure et un ami. Et ce garçon, avec son fils de 14 ans, entreprend, parce qu'il y a des caméras, de marcher le long du grillage de cette enceinte.
Avec les drapeaux
de la Manif pour tous. Et là, le petit journal est là. Canal+. On peut en parler parce que
non,
c'est une télé.
Oui, mais la télé
c'est
non
une
plus,
télévision. Oui, mais pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, je pense qu'on peut en parler. C'est une télévision, ce n'est pas une radio concurrente, donc on peut le dire. Et ils ont fait un reportage qu'ils ont diffusé, qui a été vu des centaines de milliers de fois et qui a fait rigoler la France entière. Parce que on voit Lou avec son fils se promener le long du grillage et la garde rapprochée de Christiane Taubira, des CRS en tenue anti-émeute, courant dans les champs de pissenlit. Courant dans les champs de pissenlit pour arrêter les dangereux factieux qui se promènent dans le champ de pissenlit.
Et la 3-4 qui se viande.
Et là, on voit sur la vidéo diffusée par le petit journal, l'étau se resserrer contre les dangereux factieux. Et on voit de loin, parce que c'est à 100 mètres, on voit Lou dire à son fils d'un coup d'œil, tu pars à gauche, je pars à droite. Et sur un mot d'ordre de ce père de famille exemplaire, le petit part à gauche, lui part à droite en courant, et on voit les CRS essayer de les attraper, se casser les figures dans les champs de pissenlit. C'était absolument extraordinaire. Mais voyez-vous, le pouvoir judiciaire n'a pas accepté l'humiliation de cette chasse au loup ratée. Et le pouvoir judiciaire a interpellé Monsieur Lou Motin et son fils. Mais comme ce sont des débiles, ils se sont plantés de fils. Puisqu'on voit sur la vidéo du petit journal, le journaliste attendre ce fils qui court dans les champs, qui vient vers lui et dit « Quel âge as-tu ? 14 ans. Merci petit », dit le journaliste, parce qu'on a quand même bien rigolé. Et ils attrapent un autre fils de Lou qui a lui à 19 ans, hein, qui a rien à voir, et qui se retrouve au poste de police alors que lui n'y était pas. Et ils poursuivent, tenez-vous bien, Lou et son fils, enfin ils les font entendre par la police, interpellés, pour tentative d'intrusion dans un établissement pénitentiaire. Chose tout à fait nouvelle. Moi, je croyais innocemment que ce qui était interdit, c'était d'en sortir. Mais non, on a voulu reprocher à Lou d'avoir voulu rentrer dans l'établissement pénitentiaire. Il était poursuivi pour cela, et nous avons sorti le grand jeu, faut être honnête. Je suis allé plaider à Alençon le 5 juin.
Donc c'est vous qui étiez l'avocat de...
Oui, alors oui, pardon, parce qu'il m'avait demandé de le défendre. J'y vais le 5 juin, j'avais préparé... 20 pages de conclusion.
On peut dire qu'à Alençon, vous avez fait le point quand même.
Ah oui, oh,
c'est pas mal. Oui, elle est bonne.
Oui, un petit crochet même. Et donc, nous plaidons cette affaire et j'écris à la présidente du tribunal pour lui dire « Madame le président, au nom des droits de la défense, je demande que soit visionnée une petite vidéo d'une minute trente sur les faits de l'espèce. » J'arrive à l'audience et la présidente, que je vais saluer selon l'usage pour me présenter, me dit « Ah, cher maître, évidemment, nous allons visionner cette vidéo, les droits de la défense sont sacrés. » Elle me dit « Ne serait-ce pas la vidéo du petit journal ?» Je lui dis « On ne peut rien vous cacher, maître, nous la visionnerons. » Avec une petite étincelle dans son œil. Arrive l'audience et là, le temps passe, je vais plus vite.
Voilà.
Nous soulevons des nullités, nous plaidons l'affaire au fond, et à un moment la présidente dit, à la demande de la défense, nous allons visionner une vidéo. Le greffier appuie sur un bouton et là, le grand Rex descend dans cette salle d'Alençon qui a été entièrement refaite. Et là, écoutez, le tribunal hilar, la procureure qui dit « Ah, je proteste contre la diffusion de cette vidéo car c'est un reportage partial qui ne donne que certains aspects et qui ne montre pas les faits reprochés. » Ben, je dis « C'est bien ça que je vous reproche, madame le procureur, c'est de ne pas nous donner la vidéo des faits reprochés. »
Ce serait intéressant.
Et on regarde la vidéo, nous plaidons, madame le procureur qui nous explique, parce que je lui expliquais quand même qu'un grillage n'était pas l'enceinte de la prison. Elle me dit, oui, mais une enceinte, ça peut être un simple périmètre. Un périmètre virtuel. Et je lui demande comment on peut escalader un périmètre virtuel, puisque c'est ça le texte.
Et puis où il s'arrête aussi.
On était dans... Non, mais ouais, c'est ça. C'était un champ de pissenlit. Elle contestait même le fait qu'il était interpellé. Je lui dis, moi, je vous interpelle, madame le procureur, mais c'est pas la même façon d'interpeller des policiers. Et là, le tribunal, après 2 heures d'audience, parce que nous avons quand même tenu ce qu'il fallait, et le tribunal se retire pour délibérer et revient en disant la chose suivante. D'abord, nous annulons une partie des poursuites à la demande de la défense, une partie des actes à la demande de la défense pour violation des droits fondamentaux. Nous constatons au demeurant qu'il n'y a plus rien dans le dossier. Parce qu'ils avaient été interpellés, il n'y avait rien dans le dossier. Pas de PV de constatation, rien, on ne savait pas. Ils étaient traînés là. Voilà, on n'avait rien. Relax de monsieur Loumotin. Et maître, le tribunal entend faire droit à votre demande qui est exceptionnelle, rarissime, ça c'est ma petite patte. Hein. C'est la demande de condamnation de l'État. Donc l'État a été condamné à ma demande à indemniser Loumotin de l'iniquité et de l'abus de ses poursuites, à percevoir le montant maximum que l'État, dans sa grande générosité, accorde aux victimes d'erreurs judiciaires, c'est-à-dire le montant que j'aurais dû toucher si j'avais été à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire 189,92 €. Toujours est-il que le tribunal a condamné l'État en se penchant vers moi, c'était une audience publique, donc on peut le dire, et en me disant, maître, le tribunal constate quand même que cette disposition qui plafonne l'indemnisation d'un prévenu poursuivi abusivement nous paraît contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que si vous nous aviez demandé 1 500 €, nous vous les aurions accordés. je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que si tel avait été le cas, le parquet aurait immédiatement fait appel pour protéger les finances de l'État.
Donc il n'a pas fait appel, le parquet.
Et je vous annonce que le parquet, je crois, n'a pas eu vraiment envie de recommencer.
Cette
éprouvante, il avait jusqu'à ce soir 17h, il est 20h, et je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'appel. Je pense qu'il n'a pas eu envie d'aller plus loin. Voilà, ça c'était pour la facétie.
L'État, attention, c'est important.
C'est une première.
Jurisprudence, l'État condamné pour la première fois pour une des nombreuses infractions commises par la justice, commises par la police, dans les affaires de poursuites abusives contre des gens, les jeunes de la Manif pour tous.
Absolument.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la seconde partie du Libre Journal de Chrétienté, dirigée par Daniel Amiche, et nous nous entretenons avec maître Jérôme Triomphe pour sa chronique judiciaire habituelle.
Je pense que notre ami Jean-Pierre Maugendre a levé de façon très dissimulée le doigt pour demander la parole. Alors,
voilà, j'ai une question à poser. Comment se fait-il que cette procédure dans le cas d'espèce que vous venez de nous décrire a été beaucoup plus rapide que les autres? À ma connaissance, sur ces phénomènes, c'est le seul jugement qu'on a.
Non. Quand l'État poursuit les manifestants, ça va très vite. On en est à plusieurs dizaines de jugements qui ont été prononcés. Sur ces plusieurs dizaines, les statistiques personnelles que j'ai établies au regard de moi, de mon activité, mais qui est corroborée par les autres confrères, c'est un tiers d'annulation de procédure, un tiers de relax, un peu plus, et puis un tout petit tiers de condamnation purement symbolique. Il n'y a que Nicolas Bernard Bus qui a eu droit à un traitement de faveur. Voilà.
C'est quand même invraisemblable. Alors, il y a aussi l'affaire, on en parlera, enfin, des hommes, mais on en parlera. Parce que là, c'est quand même.
On attendra la décision.
Alors, ça dépasse tout quand même. Là, on rentre dans le.
On peut juste dire que les hommes, l'action de Roland Garros. L'action de Roland Garros, souvenez-vous, des hommes, qui est une action purement symbolique, médiatique et spectaculaire. Le parquet général, après, donc, annulation par le tribunal des poursuites, le parquet avait fait appel et le parquet général a requis 6 mois de prison ferme contre l'un des homènes et 12 mois avec sursis contre un autre. Voilà.
Parce qu'ils ont allumé
un fumigène.
Roland Garros, là, etc. Alors, c'est hallucinant parce que les gars de Sud PTT, je sais pas quoi, ils n'arrêtent pas, c'est par dizaines de milliers qui
ça ne tient pas la route. Bon, en droit, la décision non, mais est attendue pour septembre.
Non, c'est bien. Alors maintenant, nous allons passer, hélas, après quand même ce moment très agréable, très agréable. Je suis content pour une fois. Là, on va passer à un sujet qui est malheureusement beaucoup moins agréable et beaucoup plus préoccupant, c'est la question qui a été débattue déjà en première partie d'émission et dans de nombreux journaux sur Radio Courtoisie, c'est celle de l'affaire de Vincent Lambert. Alors vous pouvez synthétiser très vite qui est Vincent Lambert, qu'est-ce qui lui est arrivé et où nous en sommes aujourd'hui. Rapidement, s'il vous plaît.
Vince, combien de temps
Non, très peu de temps, mais après on fera des débats, mais bien calés là, pour que les auditeurs...
voilà. Non, parce que je peux tenir un an et demi, puisque c'est le temps que dure la procédure. Vincent Lambert a 39 ans, il y a 6 ans il a eu un accident de voiture, s'est retrouvé dans un coma artificielle, médicale. On est sorti pour passer dans un état dit végétatif et on est sorti pour passer dans un état dit possi-relationnel. Possi, en latin, peu de relations, c'est-à-dire qu'il a le cerveau abîmé, il a des états de conscience altérés. Bon, on va en reparler un peu après parce qu'il y a eu une petite évolution là-dessus. Au bout de 4 ans, là, au mois de janvier 2013, le docteur Éric Carigère, responsable du Parti chrétien-démocrate en Champagne-Ardenne, catholique pratiquant, père de 5 enfants, décide de supprimer son alimentation et son hydratation. Parce qu'il considère qu'il est arrivé au bout de la médecine, il ne peut pas le guérir. Bah, c'est sûr qu'il ne le guérira pas, il est handicapé, tétraplégique, c'est pas lui qui lui refera des connexions neuronales. Bon, mais la question est de savoir si des patients en état de vulnérabilité, eh bien, on les traite humainement ou si on s'en débarrasse. C'est une vraie question de civilisation, de société, évidemment. Et c'est une question qui ne touche pas les chrétiens, c'est une question qui relève de la loi naturelle, tout simplement. Il va décider de supprimer cette alimentation et cette hydratation, après en avoir convaincu Rachel, l'épouse, qui n'avait rien demandé à personne, et il ne va prévenir aucun des parents, les deux parents, aucun des frères et sœurs, qui apprendront au bout de 3 semaines que Vincent Lambert ne mange plus,
enfin, plus alimenté.
Il a une alimentation par le ventre, hein, des choses extrêmement classiques et faciles à faire, ils vont me saisir. Et en urgence, nous allons faire un référé liberté, et le juge des référés liberté va nous donner raison en disant que le docteur Carigère a violé la loi, délibérément, hein, puisque la loi est très claire, il faut discuter avec les parents, prendre les avis, voilà, faire une réflexion, et va annuler la décision, va interdire, va obliger à reprendre l'alimentation et obliger à reprendre les soins nécessités par son état, au premier rang desquels la kinésithérapie, parce que Vincent Lambert est véritablement l'objet de traitements inhumains et d'une véritable torture, puisque depuis 20 mois, il n'a plus la moindre kinésithérapie.
Entendons bien que nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie, entendent bien ce point important
c'est capital,
à savoir que ce qui est administré à Vincent Lambert, ce ne sont pas des médicaments, sont pas des traitements chirurgicaux à base de molécules ou je ne sais pas quoi. C'est simplement l'administration de nourriture
et d'eau,
d'hydratation, voilà, et de soins corporels, de soins d'hygiène.
Ah ben les soins d'hygiène.
Donc c'est-à-dire que Vincent Lambert et 1500 ou 1600 1700, ou 1700 ouais, personnes qui sont aussi
dans son état
sont exactement dans la situation du petit bébé qui vous est né et qui lui ne peut pas tellement exprimer ce qu'il a besoin. Mais on sait qu'un bébé, il faut l'hydrater, il faut le nourrir et puis il faut le nettoyer.
Voilà.
Voilà.
Sauf
il
que
demande rien.
La véritable imposture,
c'est normal qu'on le fait.
La véritable imposture de la loi Leonetti, c'est de considérer comme des traitements médicaux le fait d'administrer la nourriture par le biais d'une gastrostomie, c'est-à-dire un petit bouton qu'on met sur le ventre et qu'on remplit avec de la nourriture, parce qu'ils considèrent que c'est fait pour pallier des défaillances vitales. Or, je tiens, et pas que moi, évidemment, les médecins, les soignants, que la défaillance vitale, c'est quoi ? C'est le fait que l'appareil digestif ne fonctionnerait plus pour assimiler les nutriments et les faire passer dans le sang et nourrir le corps. Le nourrisson, on lui fait passer la nourriture par la bouche, par le biais d'un moyen artificiel, la tétine, le lait maternisé, tout ce que vous voulez.
Même par les petits cathéters, quand on ne peut pas les alimenter.
Mais ce qui compte principalement, c'est la fonction digestive, c'est l'assimilation, c'est là.
Et il assimile.
Il assimile parfaitement, il digère, etc. Au lieu de faire passer par la bouche pour éviter les fausses routes, on fait passer par le ventre, c'est plus pratique et plus sûr. Ça a été supprimé, et ça, c'est l'imposture de la loi Leonetti. Il faut la souligner parce que trop de nos amis pensent de bonne foi que la loi Leonetti est une bonne loi parce qu'elle a établi le principe ni acharnement thérapeutique, on est tous d'accord, ni euthanasie, on est tous d'accord. Enfin, ici, autour de cette table, j'imagine. Donc, alors que ce n'est pas du tout ça, c'est l'alimentation et la nutrition et l'hydratation artificiellement donnés sont considérés comme des traitements. Et le docteur Bernard de Valois, par exemple, qui est à Pontoise, dont j'aurais beaucoup de choses à dire un jour, dit même que c'est des techniques de réanimation médicale. C'est-à-dire que tous les jours que vous mangez, vous êtes réanimé médicalement. Non, mais on est dans
n'importe quoi. Est-ce que vous me permettez, je prends deux minutes, et après vous allez parler de l'arrêt du Conseil d'État, et puis ensuite de l'effet suspensif de Commission européenne des droits de l'homme. Je voudrais quand même lire un texte, c'est relativement court, c'est deux questions et deux réponses. Il s'agit d'un texte en réponse à la demande d'une conférence épiscopale catholique, évidemment, faite par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2007, sous le pape émérite Benoît XVI et signé du cardinal Levada, qui était à l'époque donc le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. On a posé deux questions, voici les réponses du Saint-Siège. Donc ça veut dire que c'est les réponses catholiques et chrétiennes. Ouais. Première question, l'administration de nourriture et d'eau, entre parenthèses, par des voies naturelles ou artificielles, fermez la parenthèse, aux patients en, citation, état végétatif, virgule, à moins que ces aliments ne puissent pas être assimilés par le corps du patient ou qu'ils ne puissent pas lui être administrés sans causer une privation grave sur le plan physique, est-elle moralement obligatoire ? Moralement obligatoire. Réponse, oui. L'administration de nourriture et d'eau, même par des voies artificielles, est en règle générale un moyen ordinaire et proportionné de maintien de la vie. Elle est donc obligatoire dans la mesure et jusqu'au moment où elle montre qu'elle atteint sa finalité propre, qui consiste à hydrater et à nourrir le patient. On évite de la sorte les souffrances de la mort dues à l'inanition et à la déshydratation. C'est des morts.
C'est une abomination.
Atroce, atroce, atroce. Ça, Maximilien Kolb, c'est affreux. Alors, seconde question. Peut-on interrompre la nourriture et l'hydratation fournies par voies artificielles à un patient en état végétatif permanent lorsque des médecins compétents jugent avec la certitude morale que le patient ne reprendra jamais conscience ? Réponse : non. Un patient en état végétatif permanent est une personne avec sa dignité humaine fondamentale à laquelle on doit donc procurer les soins ordinaires et proportionnés qui comprennent, en règle générale, l'administration d'eau et de nourriture, même par voie artificielle. Le souverain pontife Benoît XVI, au cours de l'audience accordée au cardinal préfet Soussigné, a approuvé les présentes réponses décidées par la session ordinaire de la Congrégation et en a donné la publication Rome, le 1er août 2007.
Je ne sais pas si vous avez vu ce texte. Et il y a un autre texte dans la même veine, signé par le cardinal 23 et le rabbin David Messas en 2007, qui dit exactement la même chose et qui est absolument remarquable. En deux pages, tout est dit et tout est détaillé. Alors, on en est là. Le docteur Carrigère, nous sommes le 11 mai 2013, on ordonne la réalimentation, dit devant moi, nous sommes à l'hôpital, nous venons voir Vincent et vérifier qu'il a été réalimenté, puis ça fait 31 jours qu'il ne mange plus. Le docteur Carrigère dit devant moi, je vais reprendre la même décision, mais cette fois nous allons respecter la procédure. Ce qui est un scandale. Et alors, il va reprendre cette procédure en septembre 2013, après avoir annoncé dans la presse qu'il allait reprendre la même décision. Il fait semblant, une pure mascarade, de faire une réflexion collégiale alors que sa décision est déjà prise. Et le 11 janvier, il va reprendre une décision de mort, exactement la même. Nous la contestons une nouvelle fois devant le juge référé liberté, et là, dans sa formation la plus solennelle, le tribunal administratif de Châlons-Champagne, 9 juges, dit non, il n'y a pas d'obstination déraisonnable à continuer à alimenter Vincent Lambert. L'hôpital, sur pression de la ministre Marisol Touraine, des uns et des autres, Rachel l'épouse et François, font appel devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État ordonne une expertise pour savoir si les lésions sont irréversibles, si etc., etc. Les experts rendent leur rapport, disent la chose suivante. Vincent Lambert s'est légèrement dégradé. Ce que personne ne retiendra. Eh bien, ils disent une chose importante. Ils disent, il est en état végétatif maintenant. Ils disent, mais la situation de conscience, d'inconscience de Vincent Lambert ne justifie pas qu'on le tue. Et ils vont même dire, et la médiatisation et la division de la famille sont des obstacles. Ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais c'est très clair. Sont des obstacles à prendre, à toute prise de décision irréversible dans cette affaire. Eh bien, et le Conseil d'État demande également 4 avis. Jean Leonetti, le rapporteur de la loi, le CCNE, l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins. L'Académie de médecine et le CCNE rendent 2 avis remarquables. Disons, on ne touche pas à ces patients, on les soigne. Ce sont des êtres humains.
Le CCNE, dont je rappelle que François Hollande en avait modifié la composition pour en supprimer tous les religieux et tous ceux qui auraient été défavorables à sa loi à venir sur l'euthanasie. Eh bien, retournement de situation, le CCNE rend un avis remarquable, disant on ne touche pas à ces patients, et rend un avis remarquable en disant la loi Leonetti est scandaleuse, car c'est le médecin seul qui décide, malgré des oppositions de la famille, c'est un médecin tout puissant contre lequel on ne peut rien, c'est scandaleux, on doit changer cette loi. Le Conseil d'État se réunit, nous replaidons pour la troisième fois devant le Conseil d'État, après des échanges de mémoire, nous avons pour notre part 124 pages de mémoire, 85 pièces, enfin ça a été considérable, sans parler des dires aux experts, et le Conseil d'État, nous entendons le rapport de M. Rémy Keller, conclut à la mort de Vincent Lambert, au motif de son état. Au motif de son état. Et le Conseil d'État, il y a deux jours, rend sa décision en disant, nous avons quand même réussi à lui faire dire que la situation de Vincent Lambert et la situation d'inconscience ne justifie pas qu'on leur supprime la nourriture et l'hydratation. C'est quand même un point très important. Mais ils vont... donner satisfaction aux partisans de mort sur l'élément le plus scandaleux de cette affaire, en disant « Oui, mais les souhaits de Vincent Lambert, exprimés par son épouse, étaient de ne pas vivre dans cet état la mort. » Alors, le Conseil d'État n'a répondu à rien de ce que nous avons soulevé, notamment sur ce point.
Qui compose le Conseil d'État ? Ce sont des fonctionnaires, en fait.
Ce sont des fonctionnaires qui ont qualité à juger des affaires administratives. Ouais, ils sont 17.
La vie n'est pas une affaire
administrative. Ils sont 17, sous la présidence du vice-président, qui est le président étant le Premier ministre, mais le vice-président Jean-Marc Sauvé. Ils rendent cette décision sans répondre à nos arguments. Parce que nous contestions ces prétendus souhaits verbaux. Moi, je dis aujourd'hui autour de cette table, Jérôme Triomphe ne veut pas vivre dans la situation de Vincent Lambert.
Non, puis c'est
mais le jour où je suis dans la situation de Vincent Lambert, je ne veux pas qu'on me flingue.
C'est comme de dire, je préfère mourir que d'avaler cette soupe. Bon, mais évidemment, ça veut pas dire que je veux mourir.
Mais enfin, évidemment,
c'est des mots.
Et nous avons contesté, mais écoutez bien, c'est très important.
C'est des timbres.
Nous avons contesté, et le Conseil d'État n'en a pas dit un seul mot, ce qui est scandaleux. Nous avons contesté une triple imposture sur ces prétendus souhaits verbaux. La première, c'est que c'est Rachel Lambert, son épouse, qui en a parlé, et pour la première fois, et tardivement, au bout de 5 ans, au moment de justifier la première décision de mort. C'est facile quand on veut la justifier. La deuxième fois, la deuxième imposture, c'est que elle a été incohérente et contradictoire dans ses prétendus souhaits. À un moment, il ne veut pas vivre dans cette étape. Puis, 8 mois plus tard, elle dit non, il m'avait demandé de le piquer, de l'euthanasier positivement. Et puis, le troisième point, c'est la partisanerie. Parce que même si je ne jette pas la pierre à Rachel, sa situation est difficile, elle a été manipulée par le docteur Carrigère. Parce que ce n'est pas elle qui l'avait demandé initialement. Rachel a pris le parti de la mort. Elle est partie au procès, elle réclame la mort. Et aujourd'hui, eh bien, le Conseil d'État valide le témoignage de l'accusateur, ce qui est
invraisemblable.
C'est un
déni de justice.
Eh bien, le Conseil d'État n'a pas répondu un seul mot. Nous l'avions développé sur des pages entières avec tous les éléments du dossier. Il n'y a pas eu un seul mot. 2 minutes. On arrive à la décision il y a 2 jours. Une parenthèse pour rappeler, attention, l'état végétatif, ne vous méprenez pas, chers auditeurs, un état végétatif, ce n'est pas une personne qui est un légume. On les appelle, en fait, les spécialistes demandent qu'on les appelle les états d'éveil non répondants, sans réponse.
C'est-à-dire que concrètement,
il bouge, il ouvre les yeux, il les ferme, il se réveille, il regarde, il a les yeux ouverts. Ce n'est pas un légume, hein, ce n'est pas un légume. Le Conseil d'État rend sa décision. Je dois dire que j'ai vécu ce qu'ont vécu des milliers d'avocats attendant un verdict dans des affaires mettant en jeu la peine de mort. Ça a été un moment épouvantable. Nous étions avec Viviane, la maman, pendant que Pierre était au chevet de Vincent.
Pierre, c'est le papa.
Le papa. Ce 24 juin à 16h, quand Jean-Marc Sauvé a ordonné que les portes de ce Conseil d'État soient ouvertes, et là il a rendu sa décision d'un ton monocorde, disant, une décision qui dit finalement en pratique, le Conseil d'État ordonne, c'était pas dit comme ça, mais en termes administratifs, le Conseil d'État ordonne qu'il soit...
La mort.
Oui, mais plus que ça, en pratique, le Conseil d'État ordonne que Vincent Lambert soit dénutri et déshydraté jusqu'à ce que mort s'en suive.
C'est effrayant, c'est à vomir.
Viviane me donnait la main, Viviane éclate en sanglots devant ses juges. Je me lève et je les regarde les uns après les autres. Le président Bernard Stirn, président de la section du contentieux, je tiens à en témoigner. Et la rapporteure, Madame Sophie Caroline de Margerie, regardait leurs pieds. Le président Stirn était décomposé. Je ne sais pas s'ils ont voté la mort, je n'en sais rien. Il était décomposé. J'ai regardé les autres les uns après les autres, le président Jean-Marc Sauvé, le président Stahl et le rapporteur public Keller. Ils ont détourné le regard. Mais c'était un moment épouvantable. Nous avons ensuite fait nos déclarations devant la presse. Viviane n'était pas en état de leur parler. On a dû s'en occuper dans une pièce à part.
Maître Triomphe, je suis.
Et aujourd'hui, et je termine. Et 6 heures plus tard, et c'est là le rebondissement. 6 heures plus tard, pour la première fois dans l'histoire de notre justice, la CEDH a donné un verdict.
La Cour européenne des droits de l'homme,
que nous avions saisi la veille, parce que nous anticipions cette décision, a donné un véritable camouflet au Conseil d'État en interdisant à l'État français de toucher un seul cheveu de Vincent Lambert dans l'attente de l'examen au fond de la requête que nous lui avons soumise.
Ça prendra combien de temps, à votre avis ?
Quelques mois. La CEDH a décidé de traiter cette affaire en priorité, et donc nous pouvons imaginer une décision, disons, avant Noël.
Bon, alors, je souhaiterais que nous en reparlions peut-être dans la prochaine émission, en juillet, peut-être plus longuement qu'aujourd'hui, parce que vous avez énormément de choses à voir, mais bon, vous connaissez ce dossier par cœur. Voilà. Bon, voilà, maintenant, nous avons encore d'autres...
Pour les auditeurs, demain, voilà, J'en parlerai au de Libre Journal des idées politiques.
Ah, bah, très bien, donc vous faites comme l'ami Beaujean,
Arnaud,
vous êtes là tout le temps.
Arnaud Guéogénin, qui remplace...
vous n'avez pas réussi à vous faire inviter plusieurs fois, vous.
Pas mal, hein, qui remplace notre ami Bouclet, donc à midi. Et j'en parlerai pendant une heure avec Jacques Trémollet de Villers le 3 juillet.
Magnifique. Avec Jacques, vous allez avoir une heure et demie, vous allez pouvoir. Voilà. C'est très, très, très bien. Bon. Eh ben, on va écouter tout ça avec respect, et on vous félicite, mon cher Maître Triomphe, du travail extraordinaire que vous faites, à la fois dans les côtés un peu facétieux. Enfin, faire condamner l'État, c'est quand même un plaisir d'esthète, quand même. Faut dire. Bon.
Absolument.
Et puis, cette affaire qui est l'affaire! Parce que c'est une affaire qu'il faut mettre dans le contexte de la décision que tout le monde veut de piquer.
Et je souligne, voilà, parce qu'on a eu l'affaire Bonne Maison. Léonetti, c'est Bonne Maison en hypocrite.
Ouais, bon,
piquer.
Oui. Jérôme,
faire mourir de faim, c'est pareil.
Je suis d'accord, mais je suis obligé de passer rapidement.
Non, faire mourir de faim, je pense que c'est pire.
Non, c'est pire. Oui, mais c'est pour ça. C'est
pire, mais c'est
le
même. C'est la même
logique. Mais c'est pire.
Même attention.
Ils veulent un cas de quelqu'un qui va mourir de soif et de faim pour dire regardez comme c'est affreux. Il faut être plus.
Mais c'est la logique de l'ADMD.
Mettez une piqûre, ce sera plus vite fait. C'est ça.
Ils ont raison de dire que c'est hypocrite.
C'est une préparation de l'euthanasie générale pour tous. Moi, je commence à avoir peur. Marie m'appelle pas, moi dans la rue, pouf, il me pique. Non mais piquons encore. Je ne veux pas être piqué, je le dis ici officiellement.
Et faites des directives écrites anticipées disant que vous ne voulez pas.
Voilà, je vais faire un cherchez-vous ça.
Mettez-le dans votre portefeuille, c'est important.
Triomphe, et puis je vais vous faire un papier multi-usage. Voilà.
Merci de ne pas m'achever.
Voilà, merci de... Bon, cher Jean-Pierre Maugendre, rapidement, là, je vais vous accorder 10 minutes.
Parce que je les utiliserai, j'espère, à bon escient. Je crois qu'on est complètement dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué. Je crois que Jérôme Triomphe là a évoqué ce que l'on peut appeler l'écume de la mer, c'est-à-dire c'est des événements d'actualité qui frappent, parce qu'effectivement on est frappé par l'agitation de la mer, etc. Mais en dehors de cela, s'il y a de l'écume, s'il y a une agitation de la mer, c'est parce qu'il se passe des choses en profondeur. Soit des mouvements sismiques, soit une tempête à quelques centaines de kilomètres de là, etc. Et tant que l'on n'a pas compris l'origine de ces mouvements, eh bien au final, l'écume qui s'agite, on risque pas de comprendre ce qui se passe. Bon, et je crois que notre université d'été, elle a la volonté de chercher à comprendre en profondeur ce qui se passe. C'est-à-dire par rapport à ce que nous venons d'évoquer. Il est bien évident que ce qui sous-tend tous ces débats, ce qui sous-tend l'opposition entre les partisans de la vie que nous sommes et les partisans de la culture de mort, c'est bien évidemment une question anthropologique. C'est-à-dire, c'est une question, qu'est-ce que l'homme ? Quelle est sa finalité ? N'est-il qu'un amas de matière ou est-il autre chose ? C'est-à-dire, il y a l'agitation médiatique et puis il y a les questions de fond. Ben, je crois que notre université d'été, elle cherche à donner quelques clés de lecture sur la crise que nous vivons. Alors, les médias veulent nous faire croire que cette crise, elle est d'abord économique, financière, voire sociétale, mais nous croyons, nous, sur le fond, que cette crise, avant d'être économique, financière et sociétale, elle est spirituelle, intellectuelle, morale et identitaire. Voilà, je crois qu'en quelques mots, c'est la trame générale de notre université d'été, c'est au-delà de l'agitation médiatique, de pouvoir aller en profondeur et de comprendre la réalité des principes, des idées, voire des idéologies dont nous déplorons les conséquences. Et que trop de nos contemporains sont condamnés à ne rien comprendre au monde dans lequel ils vivent, dans la mesure où, d'une certaine manière, eh bien, ils déplorent des conséquences dont, en réalité, ils chérissent les causes. Voilà, et ce que nous allons chercher à mettre en œuvre, c'est réfléchir sur les causes profondes dont beaucoup de nos contemporains déplorent les conséquences. Voilà, je crois que c'est la trame générale de notre université d'été.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la seconde partie du Libre Journal de Chrétienté, dirigé par Daniel Amiche. Et nous nous entretenons avec Jean-Pierre Maugendre au sujet de la 23e université d'été de Renaissance catholique sur le thème « Sortir de la crise ».
Merci Adélaïde.
Et ce thème général se positionnant autour d'une double problématique. D'une part, une problématique historique, parce que bien évidemment, la crise que nous vivons, elle a des originalités. C'est-à-dire, il y a des éléments, ce que l'on évoque, par exemple, ce que l'on a évoqué il y a quelques instants, c'est nouveau, c'était inconcevable dans toutes les crises que l'on a vécues profondément. Donc, chaque crise que traverse un pays, elle est à la fois profondément originale, mais il y a également des continuités. Il y a également des analogies, il y a également des points communs avec des crises vécues antérieurement. Et si notre pays continue à exister, c'est que ces crises ont été surmontées. Donc nous aurons une première partie historique dans laquelle nous chercherons à tirer les leçons des crises qui ont été surmontées. La chute de l'Empire romain avec Michel de Gégère. La guerre de Cent Ans, le rôle de Jeanne d'Arc dans la restauration de l'autorité royale avec Philippe de Villiers. Les mérites et les limites de la restauration avec Philippe Pichot-Bravard, la restauration ayant cherché à non pas à clore, mais à essayer de faire refonctionner ce pays après les 25 années de délire révolutionnaire. Également, Hilaire de Crémier, toujours dans cette logique, nous fera réfléchir sur la manière dont, à l'issue de la défaite de 1870, Renan, dans un ouvrage qui porte un très beau titre, qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale », a été amené à se poser la question de savoir si les principes sur lesquels reposait la France depuis un petit peu moins d'un siècle, si au final, ces principes n'étaient pas en eux-mêmes délétères, porteurs de mort, et si c'est pas à cause de ces principes que l'on avait le bonheur d'avoir les Hulans défilant à l'intérieur de Paris, sur les Champs-Élysées. Et puis, dernière partie historique, et c'est Philippe Conrad qui traitera ce sujet, comment la France, première puissance mondiale en 1918, puisque c'est le grand pays vainqueur de la Première Guerre mondiale, eh bien, 20 années plus tard, en quelques semaines, est balayée par la puissance qui était la puissance vainqueur de cette époque. Donc première partie historique, quelles leçons pouvons-nous tirer de la manière dont nos anciens ont surmonté les crises qu'ils avaient eux-mêmes vécues ? Et puis alors une partie plus actuelle, plus contemporaine, avec un élément de transition qui est une conférence qui sera faite par, je pense, un des intellectuels les plus brillants de notre famille d'esprit aujourd'hui, qui est le professeur Roberto De Mattei, donc qui viendra viendra directement de Rome à cette occasion. Il nous fait l'amitié et l'honneur de participer à ces travaux. Et lui, cette notion de crise, il l'adaptera à la question religieuse, se posant la question de savoir quelles leçons nous pouvons tirer de la manière dont l'Église catholique a résorbé la crise arienne. Je vous rappelle qu'au moment de la crise arienne, les évêques catholiques, on les compte sur les doigts d'une main, hein. Saint Athanas, Saint Hilaire, etc. Voilà, d'évêques catholiques vraiment ouverts. Il reste alors, ça.
Et encore une main amputée de quelques doigts. Vous avez,
quels exemples on peut tirer de la manière dont l'Église a réussi à sortir de cette crise pour sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Je me permets de renvoyer les auditeurs de Radio Courtoisie à une excellente conférence prononcée par Mgr Schneider en Grande-Bretagne sur ce sujet-là. Et puis, les problèmes contemporains d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est bien sûr résister à la tyrannie médiatique, ce dont nous parlera Jean-Yves Le Gallou. C'est restaurer la politique, ce dont nous parlera Marie-Pauline Desvart.
Magnifique.
Comment surmonter une crise économique, car il y a quand même aussi également une crise économique. Et puis également, nous fait l'honneur de participer à ces travaux Jean-Paul Gourevitch, qui est certainement aujourd'hui un des meilleurs spécialistes de l'islam et de l'immigration. Donc voilà, partie historique, partie contemporaine, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés, avec également une table ronde sur les rapports de l'islam, de la laïcité, de l'identité française, un certain nombre de réflexions aussi sur le rôle de la politique et puis le rôle de l'action sociétale. Et puis nous avons demandé à l'association Espérance Banlieue de nous donner une petite note d'optimisme, puisqu'elle mène un travail tout à fait remarquable à Montfermeil.
Donc, Jean-Pierre Mougeant,
oui,
c'est de quand à quand?
Alors c'est du 11 au 14 juillet, ça a lieu au carrousel de Baron Ville, donc c'est à proximité de Chartres. Il y a possibilité donc de prendre plus de renseignements sur notre site, hein, renaissancecatholique.org.
Alors on a seul mot, hein, renaissancecatholique.org.
Tout accroché.org. Vous pouvez également téléphoner au 01 47 36 17 36.
Redites-nous le numéro, je vous prie.
01 47 36 17 36. Et il m'est agréable de souligner que nous avons fait un tarif spécial pour les jeunes, puisque pour les 4 jours, pour les jeunes, c'est 70 euros. Voilà, ça paye même pas les repas, mais il nous paraît important.
Parce que là, vous les nourrissez, vos jeunes.
Ah, on les
vous
nourrit, voilà.
Donc c'est Carigère, quoi.
Non, nous, on n'est pas comme le docteur Carigère. Et puis également, nous avons mis en place une formule jeune ménage, c'est-à-dire qu'un ménage de moins de 40 ans, s'ils s'inscrivent à deux, nous offrons non pas le conjoint, ce qui n'est pas dans nos moyens, mais nous offrons l'inscription du conjoint.
Alors dites donc, je vois que vous avez changé d'adresse, vous n'êtes plus à Suresnes maintenant.
Eh oui, nous avons déménagé, nous sommes retournés à Issy-les-Moulineaux.
Ah bah c'est bien, donc 13 avenue de la Paix, 92 Entente, Issy-les-Moulineaux. Donc le téléphone, je rappelle, 01 47 36 17 36. C'est vraiment l'université d'été qu'il ne faut pas manquer cette année, parce qu'on est au cœur de la problématique, hein, sortir de la crise. Voyons comment ça s'est passé dans le passé, et essayons de voir comment on pourrait en sortir aujourd'hui. Bon, alors ça fait quand même un tour extrêmement intéressant de la question, puisque crise il y a. Voilà, ceux qui ne voient pas de crise, c'est un peu comme le docteur Benmaison ou le docteur Carigère, ils ne voient pas les crises. Voilà, on leur achètera des lunettes, peut-être qu'ils y verront un peu plus clair. Merci cher Jean-Pierre Mougenne, pardon d'avoir...
Merci cher Daniel Mune, non.
Pas beaucoup de temps, il faut quand même que je parle avec nos...
Mais elle est pardonnée.
Mon cher maître, c'est toujours de votre faute, vous le savez bien.
Parce qu'il faut me donner la parole après.
Faut demander à passer avant.
Faire des chroniques de 10 minutes, et paf, c'est qui se fait, hein, comme on appelle ça, un tunnel en radio. C'était effrayant quand même. Genre, je vous maîtrise. Alors, cher François Furtat, alors là maintenant c'est à vous de perdre, et puis alors, Méron Belli aussi, vous parlez. Alors, Méron Belli, donc je rappelle que c'est l'imprésario, on va appeler ça l'imprésario, du groupe Leader Vocal. Pardon, ça, il y a de l'anglais, hein, mais Liberia, c'est le nom du groupe. Bon. Et puis en face de moi, donc, j'ai François Furtat, qui est auteur, compositeur, interprète, un des deux dirigeants, en quelque sorte, du groupe, avec votre frère. Son prénom, c'est
David.
Exactement. David Furtat et François Furtat. Mais vous êtes aussi pasteur.
Voilà, exactement.
Ce qui est bien chez les protestants, c'est que tout le monde peut être un peu pasteur. Quoi. C'est drôlement bien.
C'est un peu dénigrant.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de pasteurs. Nous, c'est plus compliqué, parce que c'est difficile. Moi-même, à mon âge, je me tâte. Mais non, je suis trop vieux, je ne peux plus me mettre le latin dans la tête. C'est fini. Bon, alors, cher François Furtat, d'où venez-vous?
Moi, donc, je viens de Clermont-Ferrand, en Auvergne.
Mais avant?
Je suis originaire des îles du Cap-Vert.
Voilà, parce que vous regardez comme ça, on n'a pas quand même tout à fait l'impression que vous êtes un Auvergnat, ou alors,
j'en ai la couleur, l'accent.
Donc vous êtes nés au Cap-Vert tous les deux.
On est nés à Clermont-Ferrand.
D'accord. Fait. Mais vos parents étaient Cap-Verdiens.
Mes parents sont des îles du Cap-Vert, exactement. D'accord. Mon père est arrivé dans les années 71, et ma mère, avec mes cinq frères et sœurs, l'ont rejoint en 74.
D'accord.
Moi, je suis né en 75.
Quel jour !
Presque, hein.
Bientôt. Moi, c'était mon anniversaire hier, c'est pour ça que j'étais...
Ah bah, je suis désolé, vous paierez un coup après, c'est normal. Bon.
Et puis mon frère est né un an et demi plus tard, donc voilà.
Très bien, très bien. Donc, famille nombreuse. Qu'est-ce qui vous a intéressé à faire de la musique ? Comment ça s'est passé ?
Bon, moi, je dirais que j'ai évolué dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand pendant pas mal de temps. J'étais boxeur amateur, là. Et puis, je me suis mis au rap, on va dire, parce que le rap, ça correspondait un petit peu au style de musique qui nous est vibré à l'intérieur. Et puis j'aimais bien ce côté un petit peu revendicateur, cette notion, même si ça s'est perdu au fil des années, là, mais cette notion de pouvoir faire passer un message dans le rap, c'est quelque chose qui m'attirait quand même. Quoi. J'étais un jeune un petit peu rebelle, et j'avais vraiment des choses qui me rongeaient à l'intérieur, et c'est vrai que le rap, ça a été un petit peu mon exécutoire, on va dire quand même.
Ça dure, attendez que vous mûrissiez un petit peu pour vous cueillir, il cueille toujours au bon moment. Ah, hein,
donc
y a pas de soucis,
donc on a commencé très tôt, hein. Moi j'ai commencé en 89, j'avais un groupe qui représentait la partie nord, on va dire, de Clermont-Ferrand. J'ai quitté ce groupe en 91, on a créé Leader Vocal avec mon frère. À l'époque, on avait des revendications, on parlait de la société, on avait des revendications aussi un peu pro-black quand même, je tiens à le dire. Dieu nous a changé aussi là-dessus. Et en 93, eh ben, moi je me suis converti en fait. J'étais vraiment touché par la grâce de Dieu.
Alors, les problèmes de conversion, c'est toujours des questions très très difficiles. Bon, mais parce que moi, ça, c'est quand même un mystère. Bon, mais comment ça s'est passé ? Vous avez eu des contacts ? Vous avez vu des gens ?
En fait, écoutez-moi, déjà, c'est vrai que quand on était tout jeune, mes parents, ils viennent vraiment d'un milieu catholique très fervent. Je dirais même mon grand-père, il tenait vraiment d'une main de fer le respect de la religion, tant du côté de ma mère que du côté de mon père. Quand mes parents sont arrivés en 74, ils ont vraiment eu un bouleversement, je dirais, au niveau de l'évangile, qui a bouleversé vraiment une grande partie de ma famille. Et puis voilà, moi, très jeune, j'ai vécu des choses très très fortes. Et ensuite, après, mes parents, pour plein de raisons que ça serait trop long d'évoquer tout de suite, ont laissé l'église.
On a l'intention de vous réinviter, vous savez, c'est pas la dernière fois que vous ne venez réinviter, je peux vous le dire. Hein.
Non, voilà ce qui s'est passé, c'est vrai que mes parents, le pasteur de... Mes parents fréquentaient une église, le pasteur est mort, il a été remplacé, le courant n'est pas passé avec ma famille, avec une grande partie de l'église. Mes parents ont vraiment été déçus, on va dire, par ce que je peux appeler à l'époque de religion, de spiritualité, un peu, il y a eu beaucoup de mélanges. Et ce qui fait qu'on a été un petit peu abandonnés. Pourtant, moi, j'avais été présenté au Seigneur. Et très tôt, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà, moi, j'avais 9 ans, je tiens à le dire. Vous parliez librement des apparitions de la Vierge Marie. Et puis, je l'écoutais avec beaucoup d'attention. Moi, 9 ans, j'ai réellement vu Jésus-Christ dans ma chambre, dans des conditions particulières. Et donc voilà, je pense que j'étais vraiment appelé. Mais après, quand mes parents sont partis de l'église, les discussions bibliques devenaient très très tendues. Dieu a commencé à être oublié. Moi, j'ai commencé à grandir. À 16 ans, je suis devenu père de famille. Ma fille en est témoin aujourd'hui.
Votre jeune fille charmante est dans le studio. On ne l'entendra pas, mais...
Donc, ce qui s'est passé, c'est vrai que quand...
Ah bon, on n'a pas le temps, donc ça s'est réglé. Donc.
Quand, avec mon ami de l'époque, on a constaté dans qu'elle était enceinte, ça a été vraiment un choc. Mais je dirais que Dieu a vraiment utilisé ça pour me sensibiliser. Parce que, vraiment, la question de l'avortement, elle s'est posée. Mais là, je me suis dit, non, moi, j'ai envie d'aller au bout, quoi. Je pouvais pas concevoir, quoi, qu'on allait procéder à un avortement.
Et vous avez eu raison, parce qu'il est très...
J'ai eu raison.
Elle est ravissante.
Là, aujourd'hui, bon, voilà, je le dis, est-ce que c'est ma fierté ? Bon, ben voilà, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai eu la garde de ma fille jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle termine une première année en master, et puis elle prépare une école de journalisme.
Très bien. Bravo.
Voilà, donc on attend les résultats pour vendredi prochain, pour le CELSA, et puis pour Bordeaux, donc on espère que ça va bien se passer. Donc voilà, et puis je dirais, voilà, pour aller très vite, cette situation m'a amené à me responsabiliser. Je me suis dit, bon là, il faut vraiment... J'ai tout arrêté, je faisais beaucoup de... J'avais déjà eu des condamnations, j'ai pas fait de prison, j'avais eu des mois de sursis pour violence en réunion, tout ça, et là je me suis dit, non, il faut vraiment que tu prennes ta vie en main, quoi. Et là, je me suis vraiment consacré à la boxe, en fait. Et dans cette période-là, il s'est passé plein de choses. Même si j'étais moins violent à l'extérieur, je dirais que cette violence que je manifestais à l'extérieur, qui trouvait plus de source par cette paix que je commençais à trouver, issue de cette responsabilité-là, elle s'est développée par des choses encore plus graves. Et là, je me suis vraiment centré sur moi-même, enfermé dans l'afrocentrisme, rebelle par rapport à l'esclavage. Et là, je suis tombé ma condition, elle était pire que la première. Quoi. Mmh. Et dans ce contexte-là, un jour, eh ben, je parlais de ma rage à un Ivoirien. Il m'a dit, écoute, ouais, moi, je connais mieux l'Afrique que toi. Je t'ai écouté pendant une heure. Est-ce que tu accepterais d'écouter l'Évangile, ne serait-ce que 20 minutes ? Je lui ai dit, ben, écoute, ouais, j'allais tout petit à l'église, je peux revenir. Et c'est vrai que j'ai été vraiment interpellé. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vécu des choses vraiment particulières, une délivrance qui a été très longue aussi. Et ensuite, après, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. 93, ça s'est super bien passé, jusqu'en 97. Malheureusement, en 97, eh ben, j'ai une sœur qui est partie vivre aux États-Unis. Et puis, elle s'est mariée avec un Américain qui trouvait plaisir à la battre. Ils sont venus en France nous présenter leur premier enfant. Cet Américain a voulu faire les mêmes choses chez nous. On est une famille de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Et puis, on n'a pas l'habitude de garder nos mains dans nos poches. Et puis là, avec
donc,
mon frère...
Voilà, la boxe a repris.
La boxe a repris.
Sur l'Évangile.
C'est pas la boxe, hein, mais une mauvaise signification de ce qu'on peut appeler la vengeance. Quoi. Ouais, ouais. Et puis, je suis tombé dans quelque chose de... Je n'ai pas honte de le dire. Hein, alors que j'étais chrétien, j'étais pris par cette haine. Et puis là...
Alfred, c'est ça qu'il faut se... On doit se battre, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive aussi d'avoir des petites bouffées de...
Mais on a été un peu trop loin, il y a un avocat
à côté,
et puis voilà, on s'est retrouvés...
Je suis 30% sur les violences, ce
soir. On s'est retrouvés à la suite de cette affaire, accusé d'enlèvement, séquestration, tentative de meurtre, et si on s'en est sorti, avec 6 mois de sursis et des travaux d'intérêt généraux, c'est vraiment la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et quand je suis sorti de cette affaire, et puis il y a eu toute une période de culpabilité où je me suis dit, mais bon, c'est vrai que j'ai l'obsession, l'envie de la vengeance a été tellement forte que j'ai oublié tout ce que j'ai entendu sur l'Évangile durant ces 4 ans. Et puis là, beaucoup de culpabilité. Et ensuite, après, ben, à la suite de ça, il y a eu beaucoup d'événements, on en reparlera peut-être une autre fois. Je suis parti au Maroc, et là au Maroc, je dirais que j'ai encore vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. J'étais à nouveau touché par la grâce de Dieu. Et là, en 97, j'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu, et j'ai dit, écoute Seigneur, voilà, moi je décide de consacrer ma vie à te servir en fait. Donc quand vous disiez tout à l'heure, et je le prends pas mal, hein, oui, chez les protestants, on est pasteur un peu plus facilement.
Je reconnais des pasteurs, je veux dire, je pense que vous en connaissez beaucoup, moi j'en connais un tas.
Moi j'en connais pas beaucoup. Et en tout cas, je dirais que moi, ça a vraiment été un appel, une conviction, une envie, vraiment, même pas avec cette notion d'être racheté de mes fautes, hein, vraiment, mais de dire, écoute Seigneur, j'ai été témoin à plusieurs reprises d'une grâce énorme, et je veux pouvoir témoigner de toutes ces choses. Et à partir de 97, le groupe, mon frère et lui, ben, a vécu des choses similaires en France, et à partir de là, on a répondu à l'appel de Dieu, et puis on est...
C'est là où vous êtes retrouvés tous les deux pour... faire ce leader vocal. Le
leader vocal était déjà
parti.
Ouais, on a des premiers groupes européens qui a vraiment, dans le milieu du rap, qui a vraiment confessé son appartenance à Christ, a témoigné. Nous, on évangélisait, on connaissait même pas la signification du terme, on n'avait pas été assez loin encore. Et puis voilà, après ce qui s'est passé, donc en 97, je dirais que là, on a vraiment répondu à l'appel de Dieu, et depuis, on sert le Seigneur, on a été joué en Pologne, en Allemagne, en Afrique, et puis partout, on a vu vraiment la main de Dieu nous accompagner, en Italie.
On va écouter un premier titre. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'entendre un second titre, mais parce que je voudrais que vous faire parler, parce que bien la sûr. Musique, je peux la passer quand vous n'êtes pas là, mais là, quand vous êtes là, je
mais
profite que vous soyez là.
Hein. De ma conversion, bon, c'est difficile de le faire de manière.
C'est drôlement important. Alors, on va passer le premier titre qui est donc, qu'il s'appelle, alors je me tourne vers
toujours
le.
Toujours debout.
Toujours debout. Alors, toujours écoutez debout. Attentivement. Vous allez voir que c'est quelque chose de. Alors, c'est du rap, hein, je préviens nos amis auditeurs de Radio Courtoisie. Hein, c'est ni du balbuzette, ni du baroque. C'est spécial, mais. Écoutez attentivement ce morceau.
Toujours debout malgré les coups reçus, les critiques, les coups bas, les insultes, les croches et les croches battes. Toujours debout malgré leur haine, leurs paroles, leurs mensonges, leurs complots, leur désir de nous voir morts. Toujours debout malgré la souffrance, la perte de nos aimés, le vol de nos trésors et plus encore. Toujours debout malgré les 40 coups moins 1, toujours plus fort malgré les coups qui violentaient nos corps. Toujours debout, toujours plus fort, comme Rocky, j'en redemande encore. De l'enfant à quatre pattes, je me suis tenu sur mes deux jambes. De l'enfant qui va balbutier, j'ai progressé et parlé. De l'enfant timide est sorti l'homme plein d'assurance. L'enfant qu'on désignait comme mauvais est sorti la référence. De l'enfant qui échouerait est sorti l'homme qui a réussi. De l'enfant qui a fait au nez est sorti le beau métis. Toujours debout malgré les coups reçus, les critiques, les coups bas, les insultes, les croches et les croches pattes. Toujours debout malgré leur haine, leurs paroles, leurs mensonges, leurs complots, leur désir de nous voir morts. Toujours debout malgré la souffrance, la perte de nos aimés, le vol de nos trésors et plus encore. Toujours debout malgré les 40 coups moins 1, toujours plus fort malgré les coups qui violentaient nos corps. Toujours debout, toujours plus fort,
comme Rocky, j'en redemande encore. Toujours debout malgré leurs prophéties. Toujours sur pied malgré leur mort prédite. Toujours riche malgré l'appel de la pauvreté. Toujours fort malgré leur méchanceté. Toujours en place malgré les chiens qui nous ont envoyés. J'ai pas fait 5 ans comme certains le croyaient. Et même si j'ai cramé plusieurs années, j'ai racheté le temps comme l'évangile me l'a conseillé. Toujours debout malgré les coups reçus, les critiques, les coups bas, les insultes, les croches et les croches pattes. Toujours debout malgré leur haine, leurs paroles, leurs mensonges, leurs complots, leur désir de nous voir morts. Toujours debout malgré la souffrance, la perte de nos aimés, le vol de nos trésors et plus encore. Toujours debout malgré les carottes tout moisins, toujours plus fort malgré les coups qui violentaient nos corps. Toujours debout, hein, toujours plus fort, ouais. Comme Rocky, j'en redemande encore.
J'ai appris l'obéissance par les choses que j'ai souffertes. Combien de plaies restées ouvertes que mes cicatrices sur ma tête. Toujours debout malgré les coups, les tentatives de me réduire. J'ai toujours cru en l'avenir sans me laisser ralentir. Ma vie illimitée, mon fondement c'est du rock. Mon autorité, ma foi, ma vie sans crise, ma personnalité. Originaire d'un continent, je viens le rythme. Vénère toujours dans l'air du temps, mon flow vient frapper la rythmique. Black comme la couleur de ma peau est noire. Je gravis les échelons toujours sur le sillon malgré l'opposition. Je suis dans le fight, ça fait longtemps comme tu vois que j'existe. La rage je tire longue sur le feu, j'avoue m'incite. Je suis sur la liste des vétérans, ça que je persiste. Et je suis du genre borné, je lâche pas, j'insiste. Lâché dans l'arène, ça fait longtemps que je bats la mort. La terre est comme mon corps, mais je suis toujours couronné d'or.
Toujours debout malgré les coups reçus, les critiques, les coups bas, les insultes, les croches et les croches pattes. Toujours debout malgré leur haine, leurs paroles, leurs mensonges, leurs complots, leur désir de nous voir morts. Toujours debout malgré la souffrance, la perte de nos aimés, le vol de nos trésors et plus encore. Toujours debout malgré les carottes tout moisins, toujours plus fort malgré les coups qui violentaient nos corps. Toujours debout, toujours plus fort. Comme Rocky, j'en redemande encore.
Tiens, malgré les forts contraires, on est toujours resté debout. Malgré les coups de l'adversaire, on est toujours resté debout. Malgré les coups de nos traîtres, on est toujours resté debout. Malgré l'état du monde actuel, on est toujours resté debout.
Voilà, je pense que les auditeurs ont été surpris par cette musique, qui n'est pas la musique qu'on diffuse habituellement sur Radio
Courtoisie. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie.
Voilà, la radio libre, oui, cas, non,
premier sur le rap.
Ce n'est pas une erreur de votre poste de radio, vous étiez sur le côté, enfin vous avez été, je pense, attentif à ce morceau qui est un très très beau morceau. Je ne sais pas si on aura le temps de passer le second, j'aurais aussi voulu vous faire entendre, mais je le passerai la prochaine fois, en l'absence même de notre ami François Furtal. Toujours debout, toujours plus fort, c'est formidable, parce que c'est vrai que les coups, on en prend beaucoup. Alors il y a les coups physiques, les coups de la vie, et puis il y a les coups aussi que prennent alors l'ensemble de la communauté chrétienne. Et là, je dois dire que vous avez eu un grand courage, dont je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter, parce que vous avez pris fait et cause pour la défense des chrétiens persécutés dans le monde. Alors qu'est-ce qui vous a soudain poussé aussi à vous intéresser à ça ?
Je dirais que c'est une véritable inquiétude par rapport à la situation des chrétiens dans certaines parties du monde, et même je dirais dans la globalité. La Bible, elle dit que si un membre du corps il est touché, normalement ça affecte tout le corps. Et moi je pense qu'il y a des hommes, et en France je ne citerai pas de nom, hein, Il y a des gens qui ont su prendre vraiment parti pour défendre des animaux en voie de disparition. Et je trouve qu'ils ont eu raison de le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de chrétiens dans certaines parties du monde qui sont en voie de disparition ? On a parlé de l'Irak au départ. Et nous, ça nous a vraiment interpellés. Et toujours debout, c'était aussi pour dire, voilà, quoi qu'il arrive, on restera toujours debout. Mais ça ne mérite pas qu'on nous donne des coups injustement comme ça se passe, quoi. Et c'est vrai que dans ce clip, on a décidé vraiment, sans tabou, de diffuser des images.
Parce qu'il y a aussi un clip, voilà,
il y a un clip qui a créé vraiment polémique. Parce que voilà, on a mis des vraies scènes. Ça aurait été mieux, je vous dis la vérité, que ce soit des scènes filmées, réalisées, pas des vraies scènes. Mais sur ce clip, et ben voilà, vous voyez, on voit des chrétiens avec la tête coupée, des choses comme ça. Moi, je suis entraîneur de boxe actuellement dans une salle de MMA.
MMA, ça veut dire quoi,
MMA, Multi Martial Art.
Plusieurs arts martiaux, quoi.
Qui est considéré comme un sport vraiment violent, un des sports de combat les plus violents. Il y a à peu près 500 adhérents, des professionnels. Et puis dernièrement, il y avait un champion qui vient du nord de la France, de Lille, qui est un poids lourd, un champion redoutable. il est venu me voir, il m'a dit, écoute François, j'ai été retourné par le clip, quoi. J'ai été choqué par la violence du clip. Vous vous rendez compte? Un gars qui a l'habitude de mettre des coups, d'en prendre, il a vu les images, il m'a dit, ouais, mais... il m'a dit, écoute, je crois que c'est trop fort les images. Il me dit, il faut que vous fassiez un autre clip, mais avec des images moins fortes. Mais pour vous donner une idée de l'atrocité des choses, quoi, l'écho que ça peut avoir. Et pire, on s'aperçoit que dans le milieu séculier dans lequel on évolue, les gens n'étaient même pas du tout au courant. Rien du tout.
Tout est vrai. Et
voilà, donc,
ça, c'est une forme d'apostolat, encore une fois. C'est remarquable.
Donc voilà, nous, on l'a fait. Alors, on pointe personne du doigt. On n'est pas contre.
Maître Triomphe, oui, mais j'ai une question un mot.
Est-ce que vous arrivez à toucher dans les banlieues, parce que le rap c'est un mode d'expression qui touche beaucoup les banlieues. Est-ce que vous arrivez à toucher les jeunes musulmans
Écoutez, moi, le meilleur témoignage, et franchement, j'ai même fait lire le message à ma femme et aux membres de l'Église. J'ai dernièrement réalisé un web documentaire sur la condition des chrétiens aux Maldives.
Magnifique. Je n'aurai que trois mots. Magnifique.
Je vous dis sincèrement, je l'ai envoyé donc à un ami, un de mes meilleurs amis, qui est musulman pratiquant, mais musulman vraiment de confession, de profondeur. C'est dommage, j'ai pas le message ici. Et il m'a dit, écoute, si ce que vous avez mis, si ce que vous dites, si ce que vous déclarez dans ce reportage est vrai, ce que fait le gouvernement des Maldives est injuste de l'être humain et injuste devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un écho, quoi. Mais ça montre aussi que même certains musulmans pratiquants ne sont pas au courant de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple, des personnes comme Daniel Amiche, et puis nous, on commence à être contaminés par la même chose, qui ont l'habitude d'être au courant de l'actualité, de la situation des chrétiens persécutés, on a l'impression que tout le monde est au courant de ces choses. Mais pourtant, non, en fait.
Non, ouais.
Et voilà, donc là, nous.
Il faut aller chercher l'info, en fait. Voilà, c'est ça le problème.
Voilà, exactement.
Il n'y a pas à nous.
Exactement, et puis voilà, donc on a décidé de prendre vraiment position par rapport à ça, et puis on a enchaîné derrière avec un morceau qui s'appelle La Voix des Martyrs. C'est vrai
magnifique,
que le clip est plus soft, mais voilà,
magnifique,
donc
magnifique.
On prend position.
On va l'écouter alors. Donc non, attends, je sais pas celui-là, c'est un autre. Alors, François Furtade, merci beaucoup d'être venu, merci
c'est un
mon cher camarade Melon-Belly. Alors, félicitations, Méron, qu'est-ce que je raconte moi félicitations à votre frère aussi, à David,
hein,
qui n'est pas là, mais enfin bon, il est dans notre cœur et notre prière, parce que c'est vraiment des gens magnifiques. Je rappelle, vous avez un site.
Daniel Ami, je vous coupe. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier. Personnellement, si je le fais, vraiment, vous êtes une personne qui nous a soutenus. Je préfère mieux vous. Je préfère mieux qu'on entende nos félicitations plutôt que vous mettiez un titre.
Bon, allez.
Vous nous avez vraiment soutenus, on veut le dire et on veut.
Allez sur le site Leader Vocal, Leader LEADER Vocal en un seul mot, VOCAL.com. Alors vous allez retrouver plein de clips, vous allez avoir des choses magnifiques, connaître tout sur les jeunes. Voilà. On se retrouve dans 4 semaines. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Amen.
Amen.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de chrétienté dirigé en première partie par Guillaume de Thieulois et en seconde partie par Daniel Amiche, assisté d'Adélaïde, diffusé en direct jeudi 26 juin de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 27 juin dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.